Chapitre 26. Au cours des 11 semaines suivantes, j'ai de nouveau vécu deux vies. Une dont j'ignorais presque tout, la vie extérieure, et une que je ne connaissais que trop bien, la vie intérieure, dans laquelle je rêvais souvent de carton jaune. Dans la vie extérieure, la vieille dame au déambulateur, Alberta Hutchinson, Sadie s'était mise à sa recherche et lui avait apporté un bouquet de fleurs. S'était postée au-dessus de moi sur le trottoir et avait braillé jusqu'à ce qu'un voisin sorte, s'avise de la situation et appelle l'ambulance qui m'avait conduit au Parkland. Le médecin qui s'était occupé de moi s'appelait Malcolm Perry et c'était lui qui plus tard devait s'occuper de John F. Kennedy et de Lee Harvey Oswald lorsqu'ils seraient mourants tous les deux. Avec moi, il eut plus de chance, même si je fus à un cheveu d'y passer. J'avais des dents brisées, le nez et une pommette cassées, le genou gauche et le bras gauche fracturés, les doigts disloqués, sans compter mes blessures abdominales. Je souffrais aussi d'une lésion cérébrale et c'était ce qui inquiétait le plus Perry. On m'a raconté que je m'étais réveillé en hurlant lorsqu'on m'avait palpé le ventre, mais je n'en garde aucun souvenir. On m'a posé une sonde et j'ai aussitôt commencé à pisser ce que les annonceurs de boxe auraient appelé du raisin. D'abord stable, mon pronostic vital a ensuite été engagé. Après recherche de mon groupe sanguin, on m'a transfusé 4 unités de sang total que les habitants de Jody ont rendu au centuple, Sadie me l'a confié plus tard, au cours d'une journée de don du sang qu'ils organisèrent à la fin du mois de septembre. Sadie dut me le raconter à plusieurs reprises parce que je ne cessais d'oublier. Après examen neurologique et ponction lombaire, le scanner et les IRM n'existent pas en terrain d'antan, on m'a préparé pour la chirurgie abdominale. On m'a raconté aussi que j'avais eu une conversation avec les deux infirmières venues me préparer pour la ponction. Je leur avais dit que ma femme avait un problème avec l'alcool. L'une d'elles m'avait dit que c'était regrettable et m'avait demandé comment s'appelait ma femme. Je leur avais répondu que c'était un poisson nommé Vanda et j'avais ri de bon cœur, paraît-il. Puis j'avais de nouveau perdu conscience. Ma rate était foutue. On me l'a enlevée. Alors que j'étais encore dans les vapes et qu'on expédiait ma rate là où sont expédiés les organes qui ne sont pas absolument indispensables et qui ont perdu toute utilité, on m'a transféré en orthopédie. Là, on a posé une attelle sur mon bras cassé et mis ma jambe cassée dans le plâtre. Beaucoup de gens ont signé ce plâtre au cours des semaines suivantes. Parfois, je reconnaissais les noms, le plus souvent, non. On m'a gardé sous calmant, la tête immobilisée et mon lit incliné exactement à 30 degrés. Le phénobarbital était destiné à éviter que je me blesse davantage si je reprenais brutalement conscience. Perry et les autres toubibs, Ellerton aussi, et passé régulièrement surveiller mes progrès, traitaient ma pauvre caboche passée à tabac comme une bombe prête à exploser. Aujourd'hui encore, je ne fais pas très bien la différence entre hématocrite et hémoglobine. Mais les miennes ont commencé à remonter et tout le monde en a été heureux. J'ai eu une autre ponction lombaire 3 jours plus tard. Celle-ci a révélé des traces de vieux sang, et s'agissant de ponction lombaire, mieux vaut du vieux sang que du sang neuf. Ça indiquait que j'avais subi un traumatisme cérébral important, mais qu'il pouvait renoncer à me forer un trou dans le crâne, procédure risquée, compte tenu de toutes les batailles que mon corps livrait déjà sur d'autres fronts. Mais le passé est tenace et se protège contre le changement. 5 jours après l'opération, le pourtour de l'incision splénectomique a commencé à chauffer et à devenir rouge. Le lendemain, l'incision s'est rouverte et j'ai eu une poussée de fièvre. Mon état, rétrogradé de critique à grave après la deuxième ponction lombaire, remonta aussi sec à critique. Selon ma feuille de soins, j'étais sous sédation par ordre du docteur Perry avec réponse neurologique minimale. Le 7 septembre, j'ai brièvement émergé. C'est du moins ce qu'on m'a dit. Une femme, jolie malgré sa joue balafrée, et un vieil homme avec un chapeau de cow-boy posé sur les genoux étaient assis près de mon lit. « Sais-tu comment tu t'appelles ?» m'a demandé la femme. « Un tel, » je lui ai répondu. Mr. Jake George Untel Epping Amberson a passé 7 semaines au Parkland avant d'être transféré dans un centre de rééducation, un petit complexe d'appartements dans le nord de Dallas. Au cours de ces 7 semaines, je suis resté sous perfusion antibiotique pour combattre l'infection qui s'était installée là où siégeait ma rate auparavant. L'attelle de mon bras cassé fut remplacée par un long plâtre qui se couvrit lui aussi de noms que je ne connaissais pas. Peu de temps avant de déménager à Eden Fellows, le centre de rééducation, j'ai eu droit à un plâtre plus court. À peu près en même temps, un kinésithérapeute a commencé à torturer mon genou pour lui faire retrouver un semblant de mobilité. On m'a dit que j'ai beaucoup crié, mais je ne m'en souviens pas. Malcolm Perry et le reste du personnel du Parkland m'ont sauvé la vie. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais ils m'ont aussi gratifié d'un cadeau involontaire qui a continué à m'importuner une bonne partie de mon séjour à Eden Fellows. Une infection secondaire causée par les antibiotiques dont ils ont saturé mon système afin de combattre l'infection principale. J'ai des souvenirs brumeux de vomissements à répétition et de journées entières, c'est du moins mon impression, le cul posé sur un bassin. Je me rappelle avoir pensé à un moment donné, « Mais qui est Mr. Keane ? Et où se trouve Derry ?» On m'a laissé sortir de l'hôpital quand j'ai commencé à pouvoir garder les aliments. Mais j'étais à Eden Fellows depuis presque 2 semaines quand la diarrhée s'est enfin arrêtée. On était déjà fin octobre. Et Sadie, je me souvenais généralement de son nom, mais parfois il m'échappait, m'a apporté une citrouille d'Halloween en papier. Ce souvenir est très clair parce que j'ai hurlé en la voyant. Le hurlement de quelqu'un qui avait oublié un fait d'importance vitale. « Quoi ?» elle m'a demandé. « Qu'y a-t-il, trésor ? Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est Kennedy ? Ça concerne Kennedy ?
Il va les tuer tous avec un marteau !»
lui ai-je hurlé au visage.
« Le soir d'Halloween, il faut que je l'arrête !»
Qui ? Le visage effrayé, elle a pris mes mains tremblantes dans les siennes. « Arrêtez qui ?» Mais je m'en souvenais pas. Et je me suis rendormi. J'ai beaucoup dormi. Et pas seulement à cause de la blessure à la tête qui cicatrisait lentement. J'étais épuisé. À peine plus que le fantôme de mon ancien moi. Avant mon passage à tabac, je pesais 93 kilos. À ma sortie de l'hôpital et mon entrée à Eden Fellows, je n'en faisais plus que 79. Ça, c'était la vie extérieure de Jake Epping, un homme qui avait été salement dérouillé, puis avait manqué mourir à l'hôpital. Quant à ma vie intérieure, c'était du noir, des voix, des éclairs de compréhension semblables à la foudre. Ils m'aveuglaient par leur brillance, puis disparaissaient à nouveau, avant que j'aie pu faire autre chose qu'entreapercevoir le paysage qu'ils avaient brièvement illuminé. La plupart du temps, j'étais perdu. Mais par intermittence, je me retrouvais brûlant du feu de l'enfer, et une femme me nourrissait de copeaux de glace d'une fraîcheur céleste. C'était la femme à la cicatrice, qui parfois était Sadie, me retrouvait sur les chiottes, dans le coin de la chambre, sans la moindre idée de la façon dont j'y étais arrivé, me vidant de ce qui ressemblait à des seaux de mer de liquide en fusion, le flanc palpitant et me démangeant furieusement, le genou beuglant. Je me rappelle avoir souhaité que quelqu'un abrège mes souffrances. Me retrouvait cherchant à sortir du lit parce que j'avais quelque chose de terriblement important à faire. avec l'impression que le monde entier comptait sur moi pour faire cette chose. L'homme au chapeau de cow-boy était là. Il m'attrapait et m'aidait à me recoucher avant que je tombe inanimé sur le sol. « Pas encore, fils, » me disait-il. « Tu es loin d'être assez solide. » Me retrouvait en train de parler, ou d'essayer de parler, un couple de policiers en uniforme venu m'interroger sur la branlée que j'avais reçue. L'un d'eux portait un badge au nom de Tippit. J'essayais de lui dire qu'il était en danger. J'essayais de lui dire de se rappeler la date du 5 novembre. C'était le bon mois, mais pas le bon jour. Je n'arrivais pas à me rappeler la bonne date. Et de frustration, je me suis mis à me frapper ma stupide tête. Les flics se sont regardés, perplexes. Patty Pitt, l'autre, a appelé une infirmière. L'infirmière est arrivée avec un médecin. Le médecin m'a fait une piqûre qui m'a emporté. Me retrouvais à écouter Sadie me faire la lecture. D'abord Jude l'Obscur, puis Thèse d'Urberville. Je connaissais ces histoires, et c'était réconfortant de les réentendre. Brusquement, pendant la lecture de Tess, je me suis souvenu de quelque chose. « Oh, j'ai foutu la trouille à Tessica Shawstrap pour qu'elle nous laisse tranquille. » Sadie leva les yeux. « Tu veux dire Jessica ?»« Jessica Shawstrap, qu'est-ce que tu lui as fait ?»« Comment ? Tu t'en souviens ?» Mais je m'en souvenais pas. C'était parti. Me retrouvais à contempler Sadie, debout à la petite fenêtre de ma chambre, regardant tomber la pluie et pleurant. Mais la plupart du temps, j'étais perdu. L'homme au chapeau de cow-boy, c'était Deke. Mais une fois, j'ai cru que c'était mon grand-père. Et j'ai eu une peur bleue, parce que Grandpi Epping était mort et... Epping. C'était ça, mon nom. « Le laisse pas s'échapper », je me suis dit. Mais sur le moment, je n'ai pas pu. Plusieurs fois, une femme âgée avec du rouge à lèvres rouge est venue me voir. Parfois, je pensais que son nom était Miss Mimi. Parfois, je croyais que c'était Miss Ellie. Une fois, j'ai même été quasi sûr que c'était Irene Ryan, qui jouait Granny Clampett dans le feuilleton « The Beverly Hillbillies ». Je lui ai dit que j'avais jeté mon téléphone portable dans une mare. Maintenant, il dort avec les poissons. Je voudrais bien pouvoir le récupérer, ce foutu engin. Un jeune couple est venu. Sadie a dit « Regarde, c'est Mike et Bobby Jill. » J'ai dit « Mike Coleslaw. » Le jeune homme a dit « Vous êtes pas loin, monsieur A. » Il a souri. En même temps, une larme a coulé sur sa joue. Plus tard, quand Sadie et Deke venaient à Eden Fellows, il s'asseyait à côté de moi sur le canapé. Sadie me prenait la main et demandait « Comment s'appelle-t-il, Jake ? Tu ne m'as jamais dit comment il s'appelle. Comment pouvons-nous l'arrêter si nous ne savons pas qui c'est ni où le trouver ?» J'ai dit « C'est moi qui vais arrêter. » J'ai cherché de toutes mes forces. J'ai eu mal derrière la tête, mais j'ai cherché encore plus fort. Arrêtez. Vous ne pourriez pas arrêter une punaise de lit sans notre aide, a dit Deke. Mais Sadie était trop gentille, et Deke était trop âgé. Elle n'aurait pas dû lui dire pour commencer. Peut-être que ça tirait pas à conséquence, cependant, parce qu'il y croyait pas vraiment. « Carton jaune va vous mettre des bâtons dans les roues si vous vous en mêlez, » j'ai dit. « Je suis le seul contre qui il peut rien. »« Qui est carton jaune ?» m'a demandé Sadie, se penchant en avant et me prenant les mains. « Je me souviens pas. Mais il peut rien contre moi parce que je suis pas d'ici. » Sauf que ce mec, ou quoi qu'il fût, était en train de s'en prendre à moi. Le docteur Perry disait que mon amnésie était superficielle et transitoire. Et il avait raison jusqu'à un certain point. Si j'essayais avec trop d'insistance de me rappeler les choses qui comptaient le plus, ma tête me faisait un mal de chien, mes jambes boiteuses trébuchaient et ma vision se brouillait. Mais le pire, c'était ma propension à m'endormir subitement. Sadie a demandé au docteur Perry si c'était de la narcolepsie. Il a répondu sans doute pas, mais il m'a paru inquiet. Est-ce qu'il se réveille quand vous l'appelez ou le secouez ?
Oui, toujours, a répondu Sadie.
L'endormissement est-il plus susceptible de se produire lorsqu'il est contrarié, de ne pouvoir réveiller un souvenir ?
Sadie a convenu que oui.
Alors, je suis à peu près sûr que ça va passer. Tout comme son amnésie est en train de se résorber.
Finalement, petit pas par petit pas, mon monde intérieur a commencé à fusionner avec mon monde extérieur. Je m'appelais Jacob Epping, j'étais enseignant, et j'avais d'une façon ou d'une autre voyagé à rebours dans le temps pour empêcher l'assassinat du président Kennedy. J'ai tenté de rejeter cette idée au début, mais j'en savais trop sur les années intermédiaires. Et ce n'était pas des visions. C'était des souvenirs. Les Rolling Stones, les audiences en vue de la destitution du président Clinton, le World Trade Center en flammes, Christie, mon ex-épouse à problème et source de problèmes.